RMC, le Super Football Show, 21h-23h. C'est l'Afterfoot, Christophe Plenet.
On démarre effectivement la seconde période de l'Afterfoot avec Samuel Hipois, avec François Manardeau. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 23h. Et pour démarrer cette seconde période, on va ouvrir un beau débat sur l'AS Saint-Etienne, les Verts de Saint-Etienne, avec Jean-Louis Gasset, leur entraîneur. Alors François, question à 500 000 $. Le druide Gasset a-t-il la bonne potion pour les Verts?
Vous savez que le druide, c'était Leclerc qu'on appelait comme ça.
Leclerc, ouais, évidemment, évidemment. Mais je pense que Gasset a quelques qualités aussi de manager et
je disais ça parce qu'ils étaient en stage donc au Touquet dans le Nord, cher à Daniel Leclerc. Saint-Etienne qui vient de réaliser un match nul, un but partout face à Amiens. C'était l'avant-dernier match de préparation avec une équipe type qui se dessine. On va en parler dans un instant. Mais donc question, François, est-ce que Gasset a la bonne potion
le Saint-Etienne
pour les Verts
des 6 derniers mois de Ligue 1 et qui fait le meilleur mercato hivernal de Ligue 1. Ils en avaient besoin, ils le réalisent avec les arrivées d'Envila, Subotic,
Debuchy,
Entep. Alors il n'y a pas beaucoup joué, mais il a été bien quand il était là. Et Debuchy, oui, effectivement. Il y avait beaucoup de prêts aussi, non? Pas seulement par rapport au mercato hivernal, mais il y avait aussi Cabella qui était prêté. Donc, moi, je crois aux qualités de Jean-Louis Gasset. J'y croyais quand il était au Paris Saint-Germain, plus que l'entraîneur Laurent Blanc, quand il était adjoint de Laurent Blanc. J'y crois quand il est entraîneur à Montpellier. Je crois aussi à Gasset à Saint-Etienne. Maintenant, c'est la matière première que tu vas avoir, le mercato. Voilà, on le sait, il n'est pas terminé. On est le 27 juillet aujourd'hui. Il faut voir avec quel outil, qu'est-ce qu'il va avoir sous la main comme joueur. Il y a tout à Saint-Etienne. Il y a tout. Tout est réuni pour que tu puisses avoir une équipe qui fasse une très belle saison. Maintenant, si Gasset, il arrive à conserver Mvila, il arrive à garder Debuchy et Subotic aussi qui était pas mal, avec des joueurs d'expérience comme Perrin, il y a Amouna a priori qui est encore dans le coup. Je pense que c'est une équipe qui peut-être peut faire la surprise. Elle a les capacités, elle a les qualités pour. Mais alors quand je parle de surprise, entendons-nous bien, hein, c'est Europa League.
Oui. En tous les cas, donc Jean-Louis Gasset a re-signé donc à Saint-Etienne. Il a demandé des garanties à Roland Romeillet et à Bernard Caillazo. Pour l'instant, il a obtenu donc la signature de Mathieu Debuchy, qui s'est engagé pour 3 saisons. Wabi Kazri, l'international tunisien, est arrivé en provenance de Rennes. Il a été très bon d'ailleurs à Amiens, au Touquet, pardon, aujourd'hui face à Amiens. Sam, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de Saint-Etienne? Elle garde la même ossature défensive en tous les cas que sur la deuxième partie de saison l'an dernier, avec Ruffier dans les buts, avec Perrin Subotic dans l'axe, avec Debuchy à droite et Gabriel Silva à gauche. Mvila va prolonger, c'est une information qu'on peut vous donner, hein. Il va prolonger donc en rentrant du stage au Touquet. Elle a de la gueule quand même déjà sur le papier, cette équipe de Saint-Etienne. Est-ce qu'elle peut être sur la même dynamique que sur la fin de saison dernière?
Mais entre parenthèses, effectivement, Villa, vous savez qu'il a prolongé, vous savez à combien il a prolongé?
En salaire, tu parles pas.
En salaire?
Mon avis, il doit être pour Saint-Etienne, on est autour
250.
De
250.
Il y a 300 000 par mois.
Le salary cap, c'est terminé à Saint-Etienne, ça a vécu. Hein.
Non, mais c'est inquiétant quand même, parce que il faut savoir que les droits télé, c'est pas maintenant qu'ils les auront, c'est dans 2 ans. Ça. Donc, je sais pas comment ils font, parce que c'est vraiment très très cher pour une équipe comme Saint-Etienne. Ouais,
écoute, en tout cas, c'est des dirigeants qui ont toujours fait un peu attention à l'oseille, puisqu'il y avait ce fameux salary cap. Après, ils ont peut-être aussi accepté maintenant de...
Je vais faire un jeu de mots.
De passer à une autre vitesse.
Tous les comptes sont dans le vert. Hein.
Si t'as un peu de sous, il faut le claque, hein, transfert, salaire.
Dans ces cas-là, t'aurais pu éventuellement peut-être piocher dans un joueur offensif aussi qui pourrait t'apporter.
Kazri, c'est pas mal ça
va, et il y a Kazri, ouais, et puis ça va peut-être venir encore.
Non, mais moi je pense que
ils ont vendu Berić aussi.
Non,
ils l'ont cédé.
Ils veulent s'en séparer, mais le Slovène est toujours à Saint-Etienne.
C'est dommage parce que
Guingamp et Antoine Comboiré.
C'est dommage parce que Berić a montré quand même ses qualités quand même de buteur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. Effectivement, c'est pas tous les entraîneurs qui aiment ce style de joueur-là, parce que c'est un joueur un peu comme Gonzalo Higuain. C'est-à-dire, c'est un joueur qui traîne un peu dans la surface. C'est un finisseur.
Exactement. Moins bien que Higuain, rassure-nous.
Oui, moins bien, mais c'est un finisseur.
Après, il est croisé qui s'est fait il y a 2 ans.
Ouais, peut-être que
c'est pas fait tout seul d'ailleurs.
Pour revenir à cette équipe,
Lyonnais,
à cette équipe de Saint-Étienne, je crois que la meilleure recrue est d'abord effectivement Gassé. Je trouve que le Gassé Printemps est très très bon.
Son adjoint, Ghislain Printemps,
son adjoint est très très bon. Je trouve que ces deux éducateurs, deux entraîneurs qui savent parler aux joueurs, ils ont un côté paternel que je crois que les joueurs apprécient beaucoup. En plus, il a l'air très très droit, très correct. Ça aussi, les joueurs apprécient énormément, quelqu'un de franc, quelqu'un qui te dise vraiment ce qu'il attend de toi. Maintenant, il y a une équipe, effectivement, sur la lancée de l'année dernière, devrait, justement, avec l'apport, justement, de Cazeri, devrait, franchement, lutter pour les 5 premières places, hein, Saint-Etienne. Je vois pas Saint-Etienne, avoir un autre objectif que parmi les 5 premiers.
Ça réagit beaucoup, au 32-16. On accueille Aurélien, qui veut nous parler de la SS. Salut Aurélien.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir Aurélien. Alors toi, t'es d'accord avec Sabi Pois, hein, c'est le meilleur recrutement de Saint-Etienne, c'est peut-être d'avoir gardé Jean-Louis Gasset.
Oui, moi pour moi clairement c'est ça, parce que finalement on parle beaucoup des joueurs là qui sont en train de prolonger, donc c'est des joueurs finalement qu'on avait déjà l'année dernière, de les garder c'est formidable, mais je pense que si Gasset n'était pas là, on le saura jamais, mais à mon avis ça a en tout cas fortement favorisé les discussions et les échanges. Ça permet de continuer un projet et de s'inscrire sur quelque chose qui est un peu plus long que 6 mois. Il faut pas oublier qu'il y a 8 mois, à l'heure qu'il est, nous on craignait même pour la survie en Ligue 1. Et puis bah au moins on a une équipe qui se connaît déjà. Il n'y aura pas forcément trop d'adaptations, même s'il y a des renforts qui vont arriver. Et je pense qu'on a surtout un groupe avec des joueurs qui, d'un point de vue mental et motivation, ont l'air déjà d'être très soudés les uns avec les autres, ont connu des choses très difficiles et vont pouvoir démarrer une saison sans le couper au-dessus de la tête comme on l'avait au mois de janvier, quoi.
François, c'est vrai que Jean-Louis Gasset a une petite 60aine d'années, il a de la bouteille, il a de l'expérience, et surtout il a un carnet d'adresses. C'est-à-dire que les Debuchy, les Mvila, quand il les fait venir en janvier, c'est grâce à lui et uniquement à lui.
Moi, il a été entraîneur adjoint de l'équipe de France aussi entre 2010 et 2012, toujours adjoint de Laurent Blanc. Et moi, c'est un entraîneur, tu vois, pour le coup, que je trouve qu'on a sous-coté. Beaucoup trop sous-coté. Alors lui, c'est pas trop mis dans la lumière, mais moi, je garde le souvenir d'un adjoint qui n'avait d'adjoint que le nom, d'ailleurs.
Les mauvaises langues à Paris disaient que c'était lui l'entraîneur. Hein.
Non, mais moi, je parle de l'adjoint d'équipe de France, oui, que j'ai connu. N'adjoint que le nom, parce que c'était un type qui réunit, et il réunit toujours, je trouve, toutes les qualités quoi d'un manager. Ok, il va te faire du tableau noir, il sent le jeu... Il a la pédagogie pour faire passer le message auprès des joueurs, mais après, toutes les semaines, dans un club, savoir recadrer, galvaniser, être à l'écoute individuellement et collectivement, faire le vrai boulot d'un manager, Gassé, il est fait pour ça, il est fait de cet alliage-là aussi.
On a eu un petit débat sur l'éducateur, là, il y a quelques minutes. Lui, c'est un vrai éducateur, il est fait pour ça.
Attention, parce qu'avec les joueurs professionnels, éducateurs, t'as vite fait de te faire bouffer.
Exactement. Ouais, mais il a un côté psychologue quand même, il sait parler
C'est un manager, ouais, complètement, joueurs. Christophe. Oui, il a cette capacité.
Je te parle
aussi,
pas de reprendre à dribbler ou à centrer, mais.
Non, évidemment. Évidemment. Mais il a cette capacité à faire passer le message et être à l'écoute aussi. Non,
et surtout que son passé d'ancien joueur aide aussi, quoi.
Je sais pas s'ils le connaissent beaucoup, son passé.
Lui personnellement, quoi.
Oui, mais parce qu'il est pédagogique. C'est-à-dire, il s'en sert pour faire.
Tout à fait.
Passer l'envie, l'ambition, et comment il voit les choses au niveau de cette équipe de Saint-Etienne.
Aurélien, tu es de plein fouet. Tu as dit quoi? Tu vas souvent aux entraînements. Est-ce que tu vois évoluer Jean-Louis Gasset, sa manière de diriger les entraînements, notamment? Ça te plaît, ça?
Alors. Moi, très sincèrement, j'ai pas trop l'occasion d'aller aux entraînements. En revanche, Jean-Louis Gasset, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui et de le rencontrer sur la période où ça a été très très compliqué à Saint-Etienne. Parce qu'il y avait eu un certain nombre de choses qui avaient été faites côté supporters, etc., au centre d'entraînement. Et donc, on avait pu voir, en fait, ce qu'il y a avec Jean-Louis Gasset, c'est que c'est une personne, je vais dire ça comme ça, mais quand on le voit, il paye pas de mine. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui, comme disait François tout à l'heure,
c'est pas Guardiola,
qui est pas forcément dans la lumière. Voilà, exactement. C'est pas quelqu'un qui est dans la lumière, qui va se montrer. Par contre, effectivement, c'est un mec à l'ancienne. C'est-à-dire quand on est en face de lui, s'il nous parle du foot, on a juste envie de lui dire, Ah ouais, t'as raison. C'est en fait, c'est un peu le gourou qu'on n'entend pas trop, mais où on sent que finalement, il ressent beaucoup les choses. Et quand vous parliez d'éducateurs, etc., moi, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est vrai, hein, comme disait Sam, finalement, son passé, s'il était sous-coté ou autre, on connaît pas trop, mais il dégage un truc qui fait que je pense que les mecs, quand ils l'écoutent parler, vont se dire « Ouais, mais oui. On l'écoute, quoi, il a raison. »
Mais oui, Aurélien, mais il y a une chose, alors... on va pas faire de parallèle avec Pep Guardiola et Jean-Louis Gasset, mais il y a une chose.
Quand je parlais de Guardiola, François, ça veut dire que Guardiola,
non,
il est toujours tiré.
C'est Aurélien qui en passait.
Mais quand je disais que ce n'était pas Guardiola, Guardiola, il est toujours tiré à quatre épingles, le costume,
oui,
la
seulement.
Cravate. Gasset, lui, le costume, il n'aime pas. Il est toujours en survêt, mais c'est vrai que c'est un garçon qui
pue
le football.
Oui, mais pas seulement. Guardiola, tu lui mets
le feu, t'as dit non.
Guardiola, tu lui mets un sac de patates, il garde le même charisme. Et Gasset, il a aussi un charisme. C'est quelqu'un qu'on
j'ai jamais dit le contraire.
Non, mais Aurélien disait que c'est quelqu'un. Enfin, il disait ce que moi j'avais évoqué, quelqu'un qui aime être dans l'ombre. C'est vrai, il va pas attirer, il va pas choper la lumière, Jean-Louis Gasset. Mais il a une présence, et ça, les joueurs aussi, ils le sentent. Et avant même qu'il ouvre la louche, je peux te dire que Gasset, quand il a des éclairs dans les yeux, parce que les joueurs font, je me souviens d'un match contre la Bosnie en éliminatoire de l'Euro 2012, où l'équipe de France est catastrophique, Laurent Blanc et Gasset, à la mi-temps, il faut recadrer les choses, c'est Gasset qui le fait, et les murs du Stade de France s'en souviennent. Et les joueurs, du coup, ils sont meilleurs en deuxième période, parce que le message avait porté. Et tu peux pas simplement le faire parce que tu t'exprimes bien, parce que tu gueules ou que tu tapes. Non, il y a aussi une part de qui s'apprend pas. C'est la présence. Gasset,
c'est exactement ce que je voulais dire, François. C'est que sans, alors je vous ai pas employé le mot par rapport à Jean-Louis Gasset parce que je connais pas son âge et ça a rien à voir. Mais en fait, moi personnellement, cet entraîneur-là,
pour moi, c'est vieux, 57 ans.
Penser... Non, mais c'est ça. Mais c'est qu'en fait, quand je le regarde, il me fait penser un peu à mon grand-père. Alors c'est à son âme, il est plus des nôtres. Mais c'est-à-dire que c'est le gars qui va t'écouter, qui va te faire passer un message. Mais tu sens vraiment quand même qu'il y a un respect, je pense, qui est très fort. Et comme il disait François, je pense que c'est la personne, si à un moment donné, il a envie de te faire passer un truc, je pense qu'il y a personne qui bronche dans le vestiaire et que c'est marcher droit, sinon je vous garantis que vous allez m'entendre. Et en fait, c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de l'exprimer clairement, mais c'est un truc qui est inné, c'est exactement ce que vous disiez, et qui, moi, me semble transparaître, même sans l'avoir trop rencontré.
Il était très apprécié dans le vestiaire parisien. Les joueurs
l'appréciaient. Il est toujours très apprécié des joueurs, mais pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils jouent carte sur table avec eux. Et que c'est vrai ce que disait Aurélien, et moi je l'ai un peu ressenti avec Gasset, c'est le genre de mec, avant même qu'il ait ouvert la bouche, tu sais qu'il faut pas la lui faire à l'envers. Et ça, les joueurs, ils le sentent terriblement. Et dans un vestiaire de surcroît, sans que lui, le coach, faut pas jouer au plus con avec lui.
Non, mais en
parce
plus,
qu'il connaît toutes les ficelles, il a tout fait, et voilà.
Moi, en plus, pour avoir discuté aussi avec lui, à l'époque, quand il était entraîneur en Ligue 2, je sais plus où il était en entraîneur en Ligue 2.
Istres.
Voilà.
Quand tu sais pas, tu me demandes.
Je sais.
Et Cyprien lui souffle à l'oreille.
Ah non, promis juré.
Donc j'ai eu l'occasion de discuter deux ou trois fois avec lui. En plus, ce qui est bien avec lui, c'est-à-dire qu'il a un côté en plus très très chambreur que les joueurs aussi apprécient. C'est-à-dire que il sait mettre la distance à un moment entre la rigolade et le travail. Et ça je pense que ça apporte aussi un plus à l'homme qu'il est.
Ils étaient en stage cette semaine au Touquet. Dans la semaine, un soir, ils ont fait un karaoké. Je peux vous dire que Jean-Louis Gasset n'était pas le dernier pour prendre le micro et pousser la chansonnette. Aurélien, dernière question. Tu attends quoi de cette saison, première saison complète, on va dire, donc de Jean-Louis Gasset à la tête de Saint-Étienne? Est-ce que tu le penses capable déjà, par exemple, au niveau du recrutement, de faire revenir Rémi Cabella?
Moi, oui, je pense qu'on est capable. Après, c'est pas le seul, hein. Je veux dire, derrière, il y a une question de moyens, de finances. Après, très sincèrement, si vous me demandez comment je le sens, je pense que Cabella veut revenir, que Saint-Étienne le Vieux, que Marseille, de toute façon, finira par lâcher, que ça se conclura un peu en dessous de ce qu'on entend, même si ça doit prendre du temps. Donc, je suis pas trop inquiet pour Cabella. Après, au-delà de ça, ce que j'attends de la saison, c'est déjà de vivre une saison un peu plus reposante que la saison dernière, parce que les 6 premiers mois, ils ont été très, 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 très durs. Et puis, qu'on prenne du plaisir. Et puis, en tant que supporter, qu'on ait le droit d'aller au stade. On commence la saison avec un ou deux matchs à huis clos dans la tribune où je suis abonné. Donc, même si c'est pas du tout le sujet, Voilà, c'est triste.
Ouais. Pour une les flots partiels dans les tribunes Charles Parret et Pierre Forand dans les COP. C'est vrai.
Il faut pas oublier, il faut pas oublier le COP, hein, le 12e homme, hein, qui est toujours très important à Geoffroy Guichard. Hein. Je pense que ce public aide des fois à ce que cette équipe se galvanise.
Christophe Plumenet, comment tu sais que Jean-Louis Gasset, il a poussé la chansonnette
Mais parce que je bosse les émissions, moi, François Manard. Donc, j'arrive pas, comme toi, en starlet. Je pose pas mes fesses sur le siège en demandant le conducteur. Avec Cyprien Bétou, on est là depuis 8 heures ce matin. Et on bosse, monsieur. Non,
mais s'il faut bosser un peu plus, tu peux pousser la chansonnette.
Non, j'ai un très bel organe, mais je chante pas très bien. Merci beaucoup, Starlet, de nous avoir appelé. Une belle saison du côté de Planfoy et de Saint-Etienne.
Plus que t'as bossé
comme il s'est défilé. On va accueillir un autre supporter, mais ça détient notre homme de 16, c'est Pascal. Salut Pascal.
Exceptionnel.
Salut.
Ça.
Salut.
Alors pour toi, il faut que les Verts s'appuient sur ton formation et sur les jeunes, c'est bien ça.
Il y a de la place.
Non, mais je pense qu'il faut quand même arrêter quoi. Déjà, moi je suis supporter depuis 52 ans, d'accord.
Depuis 52 ans, supporter des Verts.
Ben oui,
chapeau bas.
J'ai assisté à la plus grande victoire en finale de Coupe de France, c'est contre Nantes, ça fait 5-0, c'est un vieux plaisir.
Avec une reprise de volée magnifique de Jean-Michel Larquet.
Non, ça c'est en 77 au Parc des
Princes. Merci, pardon.
Non, c'est pas grave.
Mais t'as vu les remontées la remontée contre Split, le match contre Kiev.
Non, j'étais dans le stade de match contre Kiev, voilà. C'était un moment unique avec un entraîneur qu'on a surnommé le Sphinx, parce qu'honnêtement, on était tous en folie, sauf un, qui était là, impassible sur son banc, c'était M. Robert Herbin. Voilà.
52 ans supporter des Verts, t'imagines ?
Ouais, pas 66. C'était à l'époque de Bosquet et tout, c'était une grande époque.
Revenons à 2018, mon cher Pascal, si tu le veux bien.
Et donc justement, je voulais faire un parallèle, c'est que la seule fois où, pour les supporters de Stéphanois, la grande équipe, c'est une équipe mélangée de jeunes et d'une colonne vertébrale. Alors, colonne vertébrale change, mais je parodierais la chanson de Patrick Juvet, Où sont les femmes, je dirais Où sont les jeunes. Parce que là, on nous parle de tout un tas de noms. C'est pas possible qu'à Saint-Etienne, on ait les moyens de faire venir des joueurs comme Lyon et autres. Et c'est pas l'ADN du club. Donc là, je vois qu'on va reprêter Nordine, on a prêté Dylan Saint-Louis, on a paumé Bamba qui est parti de l'autre côté. Sincèrement, je ne me permets pas de critiquer Gasset. Je pense, moi, je suis pas dans le vestiaire, je suis pas technicien. Je pense qu'il a ses raisons, puis il fait ce qu'on lui dit. Mais enfin, où on va? D'abord, les dirigeants nous ont menti il y a quelques années en faisant croire que on allait faire du club de Saint-Étienne un club de supporters, de sociaux. Ça a été dans l'air tant qu'on a manqué d'argent. Et là, moi, sincèrement, il y avait une carte qui permettrait de devenir sociaux de Saint-Étienne. Je serais ravi. Alors si c'est 10 euros, c'est 10 euros, si c'est 50 euros, c'est 50 euros chacun. Mais là, on se retrouve avec une course à l'échalote où on va faire venir des joueurs qui sont sans doute excellents. Mais à Saint-Etienne, et je pense que le supporter précédent peut le dire, quand Piazza montait et quand on avait des jeunes à côté, le stade de Saint-Etienne...
Oui, mais Pascal, tu les as pas les jeunes aujourd'hui.
Non, on les a pas, c'est pas vrai. D'abord, on a quand même paumé un jeune avec Maisonneuf qu'on a vendu alors qu'il avait fait une saison extraordinaire quand il avait remplacé Ruffier.
Bah oui, t'as Ruffier, t'as Moulin, Maisonial pour oui. S'épanouir. Il faut qu'il aille voir ailleurs quand même.
Non, bah c'est pas s'épanouir, on l'a pas prêté, là on l'a mis dehors. Enfin, je pense qu'il y a une raison. Hein. D'autre part, on reprête un jeune à Pau, je pense qu'on a ses raisons aussi. Et des jeunes, il y a une excellente équipe bombardée là. Je suis pas mécontent, je suis supporter de mon club. Hein. Mais je pense pas qu'on a intérêt à avoir des grands joueurs dans la colonne vertébrale. Moi, je suis d'accord avec Béric. Sincèrement, je suis fou de ce joueur. Quand il a raté, je ne sais pas si vous rappelez de cette première mi-temps, je crois que c'est contre Marseille, où il rate tout ce qu'il veut, il rate un pénalty. Et le mec, il marque deux buts en deuxième mi-temps, il faut les avoir accrochés quand même. Hein.
C'était Dijon.
C'est extraordinaire ce qu'il fait. Vous êtes joueur, moi, je n'ai pas été joueur, mais se maintenir la tête en dehors de l'eau, en ayant des échecs comme ça, en plus le Lyonnais s'est même pas excusé qu'il lui a pété les croisés, hein, on attend encore. Mais sincèrement, c'est une colonne vertébrale, des très bons joueurs et puis des jeunes.
Voilà. Justement, Pascal, Jean-Louis Gasset les a emmenés ces jeunes au Touquet. Hein. Il y avait un groupe de 26 joueurs, il n'y avait pas que des professionnels, mais il les a emmenés pour les aguerrir un petit peu. Mais ils sont toujours un petit peu tendres pour prétendre jouer en Ligue 1. T'es pas d'accord avec ça quand même?
Bah, je sais pas. Bamba, on l'a vu venir de nulle part. Dylan Saint-Louis, vous suivez un petit peu son parcours au Paris FC. Si on donne jamais leur chance, les joueurs du football professionnel que vous êtes à côté des journalistes, ils ont bien démarré à un moment donné. Et c'est dans des clubs comme Saint-Etienne qui peuvent démarrer. C'est dans des clubs comme Lens, qui est voisin de nous, etc.
Tu penses pas quand même que Jean-Louis Gasset, s'il avait un Mbappé dans son effectif de 17-18 ans, il le verrait?
Oui. Bah, je lui souhaite, mais je suis pas persuadé que ce soit la politique du club à l'heure actuelle. Et je regrette. Maintenant, je suis pas dirigeant, je suis qu'un supporter lambda, même si j'ai connu des moments merveilleux avec ce club. Mais on a quand même, c'est là qu'on est. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les joueurs professionnels qui sont autour. Il y a des clubs qui sont faits pour jouer, faire jouer des jeunes, les entourer et puis monter au sommet. Et puis il y a d'autres clubs qui sont faits pour faire jouer les vedettes. Regardez le Paris Saint-Germain qui paume tous ces jeunes parce qu'ils recrutent, ils vont recruter encore un arrière central. Donc le capitaine de l'équipe de France de jeunes part, il a bien raison. Si, là, on a bien vu qu'on est devenu champion du monde avec une partie de jeunes, non?
Pascal, moi, je suis d'accord avec toi sur 2-3 points, notamment Berich. Et effectivement, des clubs comme Saint-Etienne devraient permettre justement aux jeunes joueurs du centre de formation de pouvoir éclore. Maintenant, je pense qu'ils ont l'entraîneur qu'il faut. Je crois que Gasset et Printemps sont quand même des formateurs qui savent justement voir le détail, le talent chez un jeune joueur. Je crois pas que ces entraîneurs-là vont éventuellement faire en sorte que un jeune qui soit bon et qui le mette de côté. Je crois vraiment que les jeunes joueurs, ils ont les deux entraîneurs qu'il faut vraiment pour pouvoir éclore à Saint-Etienne. Je crois vraiment pas que ces deux entraîneurs-là vont faire exprès justement de fermer les yeux ou de pas faire en sorte qu'un jeune puisse progresser à Saint-Etienne.
Non mais je dis pas qu'ils font exprès, qu'on se comprenne bien. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de réussir en prenant des joueurs aguerris qui ont échoué ailleurs et qu'ils sont très bons comme entraîneurs qui remettent à flot, que c'est sans doute un projet à plus long terme, donc plus difficile à soutenir, de faire monter des jeunes, parce que c'est pas la première année où ils vont faire quelque chose. Mais enfin, je suis pas, Dieu sait que je suis pas, paix à son âme, un copain de Nicolas après ce qu'il a dit sur nous, hein. Bon, maintenant il est au ciel, c'est très bien, mais à Montpellier, ils font monter un paquet de mecs.
Non mais en plus, tu sais Pascal, en plus il faut pas oublier une chose, hein, les entraîneurs ils ont quand même dans l'obligation du résultat, c'est-à-dire que quelque part l'entraîneur il part avec un effectif qui sent que c'est ses hommes, qui sent que qu'un groupe à qui il a totalement confiance, il sent qu'il peut partir à la guerre. Peut-être que les jeunes, il faut pas t'inquiéter là-dessus, Pascal. Ça peut être intégré au fur et à mesure. On a vu que des fois, quand tu pars forcément avec trop de jeunes, vous serez peut-être les premiers à râler, à dire que il y a trop de jeunes et c'est peut-être
mais
pas bon.
Mais on était champion du monde avec quoi? Regarde les deux latéraux qu'on a, ils viennent de nulle part.
Mais d'accord.
On verra Pascal ce que fera Jean-Louis Gasset avec son adjoint.
Mais juste après. Rien contre Gasset,
cette saison. Merci beaucoup Pascal de nous avoir appelé. Au 32-16, tu étais très bon, donc RMC t'offre un livre champion du monde, la fabuleuse histoire du deuxième sac mondial des Bleus, un livre 2 étoiles. Merci beaucoup Pascal, et appelez-nous bien sûr au 32-16 pour gagner également ces beaux cadeaux.
51 ans, supporter des Verts.
Participer au quiz.
Exactement. Il avait la voix d'un jeune de 20 ans.
51 ans, trop. Non, je déconne,
respect. Allez, un petit détour par le Canet, c'est le fil rouge de la soirée, c'est de la boxe, la réunion No Limit avec Florent. Vautrin, on en est où Florent?
On est à la 6e reprise de l'avant-dernier match. Vous parliez de Saint-Etienne et il y a un Stéphanois sur le ring, Lies Chaibi, qui affronte la perle, la pépite de la boxe française, la future grande star de la boxe française, Dylan Charadi, le butterfly, le papillon, 24 ans, l'enfant du pays, le canois. 6e reprise, Dylan Charadi qui a beaucoup de puissance dans les bras, dans les poings, il frappe très fort, il est très précis dans tout ce qu'il fait pour l'instant, Dylan Charadi, lui qui vise, il le disait ce matin à la presse régionale, un championnat du monde ici 4 ans, nul doute qu'il devrait y arriver. Et après cette rencontre, ce sera le clou du spectacle, le clou de cette soirée de boxe, le championnat du monde espoir entre Christian Mbili, le français, face au Mexicain Ramon Aguinaga.
Merci beaucoup Florent, un beau ring au Canet, un beau ring également sur le plateau de l'After avec François Manardeau et Samuel Ipoua. L'After qui revient dans un instant, appelez-nous au 32-16 pour participer au quiz tout à l'heure en fin d'émission. À tout de suite.
RMC, le super football show jusqu'à 23h, c'est l'After Foot, Christophe Plenet.
Il Il est bientôt 22h30, vous êtes sur RMC, c'est l'afterfoot pendant encore une grosse demi-heure, toujours en compagnie de Samuel Ipoua, de François Manardo, et on accueille Mélanie Ferreira, l'une de nos spécialistes mercato de la rédaction. Salut Mélanie.
Bonsoir messieurs, bonne nuit.
Alors on parle mercato avec toi Mélanie, et Golovin à Monaco, c'est officiel, ça y est.
Oui, ça y est, l'AS Monaco réussit un gros coup en s'arrachant l'une des révélations de la Coupe du Monde 2018, le milieu russe de 22 ans, Alexander Golovin. Il s'engage pour 5 ans avec le club de la Principauté. On parle d'un transfert autour de 30 millions d'euros. Et ce n'était pas gagné, hein, puisque Chelsea et la Juventus Turin voulaient aussi s'offrir le joueur du CSKA Moscou, auteur de 5 buts en 27 matchs la saison dernière. Du côté de Monaco, on jubile, hein, évidemment. Golovin a pris la bonne décision, estime Vadim Vassiliev, le président monégasque. Pour lui, il a plus de chances de percer à Monaco qu'à Chelsea.
C'est une bonne pioche, ça.
Ouais, c'est une super bonne pioche. Golovin. Je pense que voilà, s'ils associent cette année Tielemans et Golovin, ils peuvent avoir quelque chose qui fonctionne pas mal, parce que Moutinho, bon, déjà la saison passée, enfin il y a 2 ans, il faut le rappeler, quand ils sont champions de France, il est pas titulaire, et puis vu qu'ils subissent une hémorragie, il rejoue, il redevient titulaire.
Ils l'ont signé au nez à la barbe de Chelsea.
Il est pas extra. Et Golovin, c'est une très très bonne pioche. C'est un joueur.
Information Cyprien Bétou, pardon, je te coupe, François. Qui
évidemment,
Golovin, rien à voir avec Tatiana.
On a compris que vous étiez là aux aurores, hein, dès 8h du matin, vous bossez là comme des sacs à Novice, c'est très bien. Mais Golovin, non, si je peux finir mon propos, monsieur Planet, c'est juste pour dire que un peu comme Kanté, il a aussi cette faculté à, dans la lecture du jeu, à avoir cette possibilité d'intercepter beaucoup de ballons, et pas souvent taclé finalement, il est là toujours à la récupération, mais sans faire de faute.
C'est vraiment un gros coup, mais ça a été, la transaction a été facilitée puisque c'est les Russes entre eux qui ont négocié l'affaire. Donc il a dit hein, que ça a permis pour qu'il signe là-bas.
Ah, tu penses que Vladimir Poutine a donné son accord également?
Non, non, mais on a vu, il s'est fait remarquer hein, quand même ces derniers temps. On l'a vu en Europa League contre Lyon, où il avait été très très bon, pratiquement lui tout seul, il a éliminé l'Olympique Lyonnais lors de cette Europa League. Et après, hein, lors du premier match face à l'Arabie Saoudite, tu l'avais été vraiment très très excellent. Il fait une très très bonne Coupe du Monde. On va lui espérer. En tout cas, il tombe avec un entraîneur, l'entraîneur de Monaco,
Jardim,
qui va l'aider encore à progresser. C'est un entraîneur qui sait faire progresser les jeunes. On l'a vu avec Mbappé. Espérons que ça soit de la même lignée.
On poursuit le mercato show, Mélanie, avec un Brésilien de plus au FC Nantes.
Ouais, après Fabio arrivé il y a 10 jours, c'est au tour de Lucas Evangelista de rejoindre ses compatriotes Lucas Lima, Diego Carlos et André Giroud au FC Nantes. Vous n'arrêtez pas, messieurs.
Ah, il n'arrête pas.
Non, et venir au bureau à 8h du mat pour sortir Lucas Evangelista au Carapacinda.
Pardon,
donc, prêté à Estoril l'an dernier par l'Udinese, le milieu de terrain brésilien de 23 ans a signé aujourd'hui un contrat de 5 ans avec les Canaries, 9e de Ligue 1 la saison passée. Nantes aurait déboursé 4 millions d'euros pour ce joueur, qui a été présenté à ses nouveaux supporters d'une manière pour le moins originale sur les réseaux sociaux. Le FC Nantes a décidé d'officialiser l'arrivée d'Evangelista avec une mise en scène un peu à la façon Fortnite. Vous savez, c'est le jeu vidéo qui cartonne, où tous les joueurs doivent survivre dans une carte qui se rétrécit peu à peu, et à la fin, hop là, Evangelista apparaît avec le maillot du FC Nantes.
Je vois François Manardo qui te fait des gros yeux. Fortnite, tu connais pas, François?
Si, je connais, je n'y joue pas, et je sais pas trop quoi en penser, sinon que je vois des gamins être limite presque
entre guillemets, très populaire sur
entre guillemets, un peu autiste sur sur ce jeu là voilà, au lieu de lire un bouquin, passer du temps en famille, moi le mien il joue hein, mais il joue mais non mais pas du tout, mais il y a une règle toute con, c'est tu joues, tu lis une heure de jeu,
une heure de
lecture.
Et Fortnite, ça
c'est pas rigoler beaucoup.
Ça rigole pas.
Non, mais je pense qu'en plus côté, je crois que chez supporters nantais, je pense que on doit être pressé de le découvrir. Hein. C'est un joueur qu'on connaît pas.
Et le coach aussi.
Oui.
Et le coach avec le joueur sur Angelista, le coach pas mal.
Un Brésilien qui arrive à Nantes, Mélanie, et un Brésilien qui part à Marseille.
Ouais, Doria quitte la Canebière.
Il n'est jamais arrivé.
Si, il est arrivé. Il y a 4 ans, François, mais voilà, il n'a disputé qu'une trentaine de matchs, donc c'est pour ça que tu l'as déjà oublié, prêté de nombreuses fois. Le défenseur central brésilien de 23 ans rejoint le championnat mexicain et le club de Santos Laguna.
Bah, il n'a que 23 ans, hein. C'était un grand espoir hein, du football brésilien. Hein. C'est vrai que ce joueur-là, bon, il n'a pas pu montrer ses qualités dans le championnat français.
Je crois qu'il en avait vraiment.
Ben, c'était quand même un grand espoir, François, ouais, au Brésil. S'il était capitaine de sa sélection au Brésil, c'était.
Maintenant, il y a un contexte particulier. Hein. Bielsa n'en voulait pas. C'est Labrune qui l'avait imposé. Du coup, Bielsa l'a envoyé à la cave. Et puis finalement, on s'aperçoit que même s'il n'est pas à la cave, il n'est pas non plus extraordinaire. Il y a un moment donné entre Ubocan, Doria, un peu Rolando dans le coup aussi.
Ouais, Rolando, ouais.
J'en oublie. Bah oui, mais Rolando, vrai kick. Les amis, la défense marseillaise.
Mais Rolando l'a su se relever un peu. Mais après, ça prouve qu'un joueur peut être fragile à un moment s'il se sent pas aimé.
Quand tu restes 4 ans enceinte dans un club que tu vois défiler quand même plusieurs entraîneurs, même si au départ l'entraîneur qui t'a fait venir ne t'avait pas forcément choisi.
Tout le temps,
derrière, il y a eu d'autres entraîneurs après Bielsa. Pendant 4 ans au club, il n'a jamais eu sa chance. C'est qu'il y a, bien une raison. Non, il n'y a pas de niveau.
Non, mais il y a certainement une raison. Mais après, je vais te dire, après, un joueur, ça peut être fragile. Effectivement, il y a eu d'autres. Il aurait eu l'opportunité de montrer sa vraie valeur avec les autres coachs qui sont passés. Mais peut-être qu'il y a un truc qui s'est cassé psychologiquement en lui.
Il peut y avoir
un problème aussi. Voilà, qui a
il a pu peut-être être mauvais aussi.
Peut-être que.
Parce que quand il a été prêté, il n'a pas été. Alors, il a été retourné en Amérique du Sud.
François, c'est pas n'importe qui, qui est quand même capitaine de sa sélection au Brésil. Je veux dire, c'était un joueur qui était vraiment très très coté. On entendait vraiment énormément de ce garçon. On le voyait
Mélanie
pratiquement.
Il a dit, il part dans le championnat mexicain. Hein. Il part pas à l'Inter, à la Juve ou à Barcelone.
Mais c'est un bon championnat. Dans un bon championnat. Il parle dans un.
Comment veux-tu qu'il aille à l'Inter, comme tu dis, s'il joue jamais? Donc c'est normal qu'il retourne un peu, il recule un peu.
C'est un bon championnat. Ne sous-estimez pas le pedigree de Monsieur Gignac. J'entends d'avoir des problèmes.
Et non, même le Mexique a montré un très très bon football lors de la Coupe.
Non, c'est un bon championnat, mexicain. Et les équipes du Mexique qui auraient aucun problème à tenir leur place.
Très bien, on va continuer le déroulé de ce mercato show avec toi, Mélanie, dans un instant. Mais on va faire un petit retour en arrière. On va reparler de Monaco puisqu'on accueille au 32-16 un supporter de Monaco. C'est Pierre-Antoine. Salut Pierre-Antoine.
À tous.
Alors bonsoir, toi, tu as l'air d'être plutôt content de l'arrivée de Golovin.
Bah oui, c'est un projet. C'est un recrutement qui s'inscrit parfaitement dans le projet Monégas. Voilà, un jeune joueur qui a fait une super Coupe du Monde. C'est ce que je disais hors antenne. C'est peut-être la différence par rapport aux autres recrues, c'est que il a été exposé médiatiquement, que ce soit par la Coupe du Monde, mais que ce soit par ses performances en Europa League. Faut pas l'oublier avec le CSKA, qui est une équipe. Quand même moyenne, on va dire, en Europe. Et il a réussi à s'imposer assez facilement parce qu'il a un très gros volume de jeu. Il est très fin techniquement, très intelligent. Moi, je l'ai assez suivi cette année et j'ai été agréablement surpris. Et c'est une très très belle recrue pour l'AS Monaco et pour le championnat français, ça c'est sûr.
Super, Pierre-Antoine. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 32-16 et belle saison donc du côté de Louis II avec.
Eh ben merci à vous.
Monaco, tu rappelles quand tu veux, Pierre-Antoine. Allez. On poursuit donc le mercato. On reste en Ligue 1, Mélanie, avec le coach Dijonais qui a prolongé.
Oui, c'est la 7e saison qu'il entame comme entraîneur de Dijon, la 3e en Ligue 1. L'entraîneur est désormais engagé avec le DFCO jusqu'en juin 2021 et en cas de maintien en Ligue 1 cette saison, ils vont encore prolonger son contrat d'une année supplémentaire. Le club l'a officialisé aujourd'hui. La saison dernière, Dijon a terminé à la 11e place du classement. C'était sa meilleure performance. Et Daloglio a fait partie des 4 nommés au trophée UNFP.
Moi, j'aime bien Daloglio qui a un très beau style. Il fait jouer ses équipes. Voilà. Et on va rappeler que Johan Gourcuff a signé en Côte d'Or.
Il veut faire jouer ses équipes et il veut les faire jouer sans avoir des joueurs qui, techniquement, parfois ont le pedigree qui va avec ses idées, il arrive à les convaincre, il arrive à les faire évoluer, et il arrive surtout à prendre des risques calculés. Il joue pas petit bras, et ça paye pour Dijon. Mmh. Si Dijon arrive enfin à avoir une défense de qualité, et à conserver, c'est toujours le problème, hein, est-ce que je me déséquilibre d'un côté pour être plus fort de l'autre, mais à conserver dans cette identité de jeu qui est plutôt offensive ses atouts, et notamment je pense à Tavares,
équipe de Dijon qui peut aussi avoir son mot à dire dans la première partie du tableau.
Et c'est bien que le mariage continue un peu, parce qu'on voit que dans le football moderne maintenant, la stabilité c'est très très court. Moi, je trouve que c'est bien aussi de la part du président du club de faire confiance à Olivier Dalloglio. C'est un très très bon entraîneur. Je pense vraiment que maintenant, le projet d'un club, on te parle de projet, mais des fois c'est des projets qui durent que 6 mois, 1 an, 2 ans, alors qu'on sait très bien que pour faire grandir un club, c'est pratiquement des cycles, quoi, de 5-6 ans, et c'est très très bien comme ça.
Et puis on peut aussi saluer la fidélité, hein, de Dalloglio, parce que quand on parle de projet, nous on le remarque, mais il y en a d'autres qui doivent le remarquer et qui sont acteurs du football. Donc il a pas cédé peut-être à des propositions qu'il a dû recevoir, des envies d'ailleurs, parce qu'il sait que son projet de jeu, il pourrait l'exporter et peut-être l'exposer de manière encore plus forte avec un effectif plus qualitatif. Non, il reste à Dijon, il doit avoir envie de faire quelque chose avec cette équipe, en tout cas peut-être de faire un parcours en coupe, de ramener quelque chose, voilà.
De Dijon à Lyon, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement, c'est pas très loin. Et Mélanie, à Lyon, il y a une tradition brésilienne et Jean-Michel Aulas serait sur la piste d'un attaquant brésilien.
Oui, c'est ça, Pedro du Fluminense à Rio. Alors selon nos...
Comment tu dis ?
Fluminense.
Oh, j'adore.
Ah ouais. Selon nos informations, l'Olympique Lyonnais se montre très intéressant. L'Olympique Lyonnais se montre très intéressé par le joueur de 21 ans. Le club carioca demanderait 12 millions d'euros pour Pedro, qui a réalisé une très bonne saison. 9 buts et 2 passes décisives en 13 matchs pour l'attaquant brésilien. Mais a priori, l'OL ne serait pas le seul club français intéressé, puisque selon des médias brésiliens, les Girondins de Bordeaux seraient sur la piste également Pedro.
Oui, mais c'est pour parce que Memphis reste.
Ouais, ce serait pour le métro.
Pardon, j'ai oublié son nom, évidemment, le joueur
Traoré,
espagnol d'origine dominicaine.
Diop.
Non, espagnol d'origine dominicaine. Mince, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Mémoire.
Mariano, Diaz.
Voilà.
Ouais, Mariano.
Reste aussi. Fekir, il est parti pour rester. 9 millions sur un joueur.
Il a quel âge?
Il faut peut-être le faire jouer. 21 ans. C'est bon.
Non, 21 ans, ça va.
Oui, 21 ans.
Ah ouais. Tu peux le prendre.
Tu penses un peu à l'avenir. D'accord.
Allez, on part en Lorraine. Metz qui accueille un joueur de Chelsea. Oui, vous avez bien entendu, un joueur de Chelsea.
Je ferai peut-être moins bien. Victorian Angban, milieu défensif ivoirien de 21 ans. Il est prêté un an avec option d'achat par les Blues, le club anglais qu'il a rejoint en 2015, mais pour qui il n'a pas joué le moindre match. La saison passée, il avait été prêté à Beveren en Belgique. Le FC Metz annonce également la prolongation jusqu'en 2020 de Renaud Coad.
Qu'est-ce que ça vous inspire?
Que Messi a des effectifs complètement pléthoriques, avec des joueurs prêtés à droite, à gauche.
Ils ont des fois des effectifs de 40 joueurs. Bon, ils savent même plus.
Un dossier sur le marché de Chelsea depuis 10 ans.
Mais tu sais quoi? Et demain matin, tu viens au bureau à 8h et tu nous fais un dossier pour l'after de demain soir.
Mais écoute, avec plaisir, je te le dirai en privé, mais ça n'est pas possible.
Très bien.
Mais non, mais sérieusement, parce que il faudrait comprendre ce qu'ils font avec tous ces joueurs qui prennent et qui pour une belle majorité d'entre eux.
Ils espèrent qu'un jour ces joueurs-là éventuellement flambent quelque part et que bon ben que
ça soit leur soir. Avec Gael Kakuta, ils ont espéré avec.
Curieux que Metz prenne un joueur quand même qui a besoin de temps de jeu. Je crois que Metz a quand même besoin, c'est une équipe qui vient de descendre, elle a besoin de remonter pratiquement immédiatement. Apparemment, il a pas eu beaucoup de temps de jeu ce joueur dernièrement. Exactement. Est-ce que en plus dans ce poste-là, tu as besoin quand même d'un joueur qui a beaucoup évolué, qui a eu beaucoup de matchs dans les jambes? Bon, c'est un pari.
Et comme Chelsea, Mélanie, le Barça a également lui aussi un effectif pléthorique. Du coup, Lucas Digne s'interroge sur son avenir.
Et le défenseur international français qui est courtisé par Everton, le club anglais offrirait autour de 20 millions d'euros pour s'offrir le français de 25 ans. Alors, il hésite encore à quitter le club catalan. Il n'a pas réussi vraiment à s'y imposer depuis juin 2016 et son transfert définitif. Il aimerait forcément plus de temps de jeu, surtout après sa déception de la non-convocation pour le Mondial 2018 en Russie. A priori, les dirigeants du Barça ne devraient pas le retenir. En plus d'Everton, la Juventus Turin est également intéressée par le joueur formé à Lille en cas de départ d'Alexandro.
On va accueillir au 32-16 Karim qui nous appelle et qui veut parler donc du cas Lucas Digne. Salut Karim.
Ouais, bonsoir, salut à tout le monde, comment vous allez?
Bon, super bien, on espère que tu vas bien également. Et pour toi, c'est clair, hein, Lucas Digne, selon toi, n'a pas le niveau du Barça, tu confirmes?
Ouais, mais franchement, je sais pas si François va être d'accord avec moi ou tout le monde, excusez-moi, mais Lucas Digne, c'est une hérésie, c'est comme Blanchard à la Juve, Christian Val au Barça, Aludjiar au Bayern Munich, c'est des joueurs, voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait pour jouer dans ces équipes-là, mais honnêtement, il n'y a pas du tout le niveau du Barça. Moi, je suis désolé, en doublure de Jordi Alba, j'aurais pris un mec comme José Gaya qui joue à Valence. Lui, c'est l'avenir, il joue en équipe espoir avec l'Espagne, et voilà. Moi, ce type n'a pas du tout le niveau du Barça. Comment tu veux passer un quart en Champions League, que tu n'arrêtes pas de tomber en quart de finale trois fois d'affilée avec Lucas Digne comme doublure? Je ne sais pas si vous pensez la même chose.
Tu sais, Karim, je suis sûr que tu fais partie de ceux qui pensaient ça quand tu as appris la signature de Samuel Umtiti au Barça. Et tu vois que finalement, au fil des matchs, au fil de la confiance, Umtiti, maintenant, tu dirais pas que c'est pas un joueur qui est pas extampillé Barça. Mais je suis persuadé qu'au début, tu te disais, mais qu'est-ce que le Barça a fait signer ce jour-là? C'est encore une fois, c'est dommage que vous n'êtes pas des fouteux dans l'âme. Un footballeur a besoin d'une certaine confiance. Et tu sais, si on te fait jouer de temps en temps, une fois pas, une fois non, tu n'auras jamais le niveau d'une équipe. Un joueur de foot a besoin de continuité, de confiance et de jouer. C'est ça le problème. Moi, je trouve ça dur de dire qu'un international n'a pas le niveau. Pourquoi il n'aurait pas le niveau? Si, c'est parce qu'il joue pas que tu dis ça? C'est par rapport à quoi tu dis qu'il a pas le niveau? Par rapport à quoi?
Pour un club comme l'institution du Barça, t'es d'accord avec moi? Je suis désolé.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais Karim, moi je suis d'accord avec ça, mais moi avec toi du coup, parce que pour moi, Digne ne joue pas parce qu'il a meilleur que lui devant.
Bah ouais,
ça veut pas dire qu'il a pas le niveau. Voilà, exactement. Au Barça, il est moins fort que Jordi Alba.
Ouais, mais les gars, je sais pas si vous suivez la Ligue 1, regardez le Gaillol qui joue à Valence. Regardez.
Eh ben, je vais le regarder parce que. Merci beaucoup, Karim, de nous avoir appelé au 32-16. Tu nous rappelles quand tu veux. Merci beaucoup.
Merci pour la piste pour le joueur de Valence.
C'est noté. On enchaîne rapidement avec toi Mélanie. Théo Hernandez qui serait proche de la Real Sociedad.
Une information de la radio espagnole Cadena Ser qui parle d'un départ du petit frère de Lucas Hernandez, champion du monde avec la France. Le jeune joueur du Real Madrid pourrait être prêté au club basque jusqu'à la fin de la saison. À 20 ans, il a disputé 13 matchs cette saison en Liga sous le maillot du Real. Et selon le média espagnol, les deux clubs auraient déjà trouvé un accord.
Perisic pourrait arriver à Manchester United, mais il y a un si.
Oui, si Anthony Martial venait à quitter le club. Une hypothèse avancée par le journal anglais The Mirror. Ivan Perisic pourrait atterrir à Manchester United à cette condition. Selon la presse anglaise, l'Inter Milan demanderait 60 millions d'euros pour l'international croate.
André, je trouve pour finir, faut aller vite. Dis-moi.
Non, je trouve que c'est pas un club fait pour lui. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi Mourinho le veut. Tu quittes un Martial, alors Perisic c'est quand même un autre style de joueur. Et c'est vrai que les Croates sont un peu à la mode, mais il faut tous les prendre quoi. Je crois que il irait plus, je crois, à Chelsea qu'à Manchester. Ah, bon.
Mais j'aime bien Perisic. En plus, je pense que c'est le genre de joueur que Mourinho aime bien.
André Ayou,
il est têtu, Perisicien. C'est les Croates.
André Ayou à Fenerbahçe, c'est officiel désormais, Mélanie.
Ouais, l'ancien Marseillais a passé ce matin avec succès sa visite médicale. Le Ghanéen est officiellement prêté avec option d'achat dans le club stambouliote qu'il a confirmé en début d'après-midi. André Ayou qui quitte donc Swansea provisoirement 6 mois après être arrivé au club gallois. Mathieu Valbuena s'est félicité de l'arrivée à Fenerbahçe de son ancien coéquipier à l'Olympique de Marseille.
Merci beaucoup Mélanie Ferreira pour toutes ces informations Mercato. On file immédiatement au Canet, donc retrouver Florent Vautrin, c'est le fil rouge de la soirée, la petite parenthèse box avec cette réunion.
Effectivement, ici c'est le clou du spectacle de cette soirée de boxe, le gala de Brahim Asloum ici sous au Canet devant la plage de la Croisette. C'est Mbili Christian, le français, qui affronte Ramon Aguinaga pour ce qui est la ceinture des championnats du monde espoir des mi-lourds. Un combat de titan entre deux droitiers, 10 combats et 13 combats, à chaque fois des victoires par KO. Ils n'ont jamais perdu, ce sont les deux plus grands espoirs de la catégorie. Ils s'affrontent d'ici quelques secondes devant les yeux de Brahim Asloum, devant les yeux également de Michel Akariès, du beau monde ici donc sous
beau temps de la Côte d'Azur, alors que les hymnes nationaux vont se lancer ici au Canet. Mbili Christian, Ramon Aguinaga, championnat du monde espoir WBC, c'est tout de suite à vivre sur RMC.
Combat à vivre effectivement en direct sur RMC Sport. Une petite respiration et l'after revient pour la dernière ligne droite avec Samuel Hippois et avec François Manardo. Appelez-nous au 32-16 pour participer au quiz. On a plein de choses à vous faire gagner, notamment deux places pour le match amical demain à Nice à l'Alliance Riviera entre Chelsea et l'Inter de Milan. A tout de suite.
RMC, le super football show jusqu'à 23h. C'est l'after foot. Christophe Plenet.
Il est bientôt 22h50, c'est la dernière ligne droite de l'After Foot avec François Manardo, avec Samuel Hippois dans un instant. Bonjour, venez bien jouer avec nous au 32-16 pour un quiz d'anthologie, je ne vous dis que ça.
Ah,
il sera question de...
Vous savez bien les présenter, monsieur Plenet.
Pas mal de choses. Je ne dis rien pour que vous n'alliez pas sur Internet. Rapidement avant le quiz, les amis, les informations du jour et cette petite pépite qu'on a trouvée aujourd'hui en pleine préparation avec l'OM. Eh bien, c'est Clinton Enge qui a accordé une interview, écoutez bien, au Fossé, hein, le journal quotidien de Marseille.
À quelle heure il a donné une interview?
Et un petit passage de cet entretien a fait pas mal de bruit. C'était en rapport avec Kylian Mbappé et le Marseillais a lâché cette bombinette en disant que sur certains aspects dans le jeu, il était un peu en avance sur le
Parisien. Il a bien fait de préciser certains.
Oui, vous en pensez quoi?
Alors moi, j'en pense que tous les tweetos ont déjà dû, et si c'est pas fait, ils vont le faire, lui mettre juste la vidéo de son exter en finale de la Ligue Europa contre l'Atlético Madrid et dire effectivement il y a certains domaines où t'es pas au niveau de Mbappé.
En fait, non, c'est parti de la pointe de vitesse, vous savez, hein, contre l'Argentine, Mbappé qui est flashé à 37 km/h et Enge en fait a déclaré qu'il allait sans doute plus vite que
non Mbappé. Mais François,
mais sans un ballon dans les pieds.
Je ne sais pas, François.
Vous savez, des fois quand on passe une nuit, on dort bien. On se réveille un peu d'un humour un peu taquin, quoi. On a envie de déconner. Je crois que c'est ce qui s'est passé, quoi. Je crois qu'il s'est
pas... Tu veux dire qu'il a dormi seul, alors? C'est ça. Parce qu'il s'est réveillé avec une envie de déconner.
Il a tellement bien dormi, il a envie de déconner.
On enchaîne avec le club de Clinton Enge. C'est bien sûr Mais tu vois, Christophe,
j'aurais voulu revenir, là, sur Ayou. Je trouve que Fenerbahçe, c'est un super club. C'est très, très bien. Des super, une atmosphère extraordinaire, mais attention, il faut faire attention à son contrat, pas que ça finisse comme Bafé Gomis.
On en reparlera dans une prochaine émission. Dis-moi, sur le terrain, t'étais pas à contre-temps quand même.
Si je te donne la passe dans le zig et que tu me la remets dans le zag, on va pas s'en sortir. Sami Boua, je l'ai vu jouer.
Oh, l'appel contre la
prise de balle, on peut pas parler foot de Sami Boua 2 minutes, prise de balle, accélération. Il déménage
de temps en temps.
Très bien.
Quand il avait envie.
Je te charrie mon Sam. Donc l'OM, le club de Clinton Enge, qui a annoncé eh bien une augmentation de 15% par rapport à la saison dernière en termes d'abonnement. Hein, on annonce déjà plus de 38 000 abonnés au Stade Vélodrome. À l'Orange Vélodrome.
Eh ben c'est génial, ça, c'est super parce nouvelle, que quoi. Ça reprend. Et je repense à cette saison d'il y a 2 ans avec Mitchell et le départ de Bielsa, où évidemment le projet La Brune il ressemble à ce qu'il était, c'est-à-dire pas grand-chose au final, et un public marseillais qui était dégoûté, démobilisé. Et comme quoi, voilà, ça peut aller très très vite dans ce sport, dans un sens ou dans l'autre. Et là, ça rigole pour Marseille, et j'en suis ravi pour eux. Et de voir le public marseillais comme ça, qui
François,
croit
vous êtes,
de nouveau,
vous êtes sûr que l'augmentation des supporters, c'est pas dû à l'annonce justement de Enge? Peut-être qu'il...
Non mais... Peut-être toi, t'avais dormi la nuit dernière, parce que t'es très taquin ce soir. On a parlé de Marseille, on est obligé de parler un petit peu du PSG, avec le PSG donc en déplacement en Asie.
Singapour.
À Singapour, ouais. Qui affrontera demain Arsenal. Et Unai Emery, le nouveau coach d'Arsenal, eh bien,
a déclaré
qu'il allait revoir des amis. Vous les sentez comment ces retrouvailles entre Unai Emery et
PSG? Revoir des amis, oui, forcément. Et puis il va souhaiter bonne chance à Tuchel avec la direction parisienne. Voilà.
Non mais en tout cas, en plus, il a fait 3 bonnes saisons ici. Hein. En plus, il est parti avec pas en mauvais terme avec qui que ce soit, je crois pas.
Il est parti, enfin on lui a gentiment demandé de partir.
Il a vite trouvé derrière,
c'est
je pense.
C'est un échec quand même un peu pour lui, je pense.
Non mais il a eu des titres quand même quelque part, c'est vrai que la blessure de la remontada sera jamais gravée à Unai Emery et à l'histoire du football français.
Aussi, ouais.
Voilà, mais sinon je pense que les retrouvailles vont bien se passer avec certains.
Un petit mot sur Thomas Tuchel, lui qui veut profiter de ce match contre Arsenal pour peaufiner les automatismes au sein de son groupe. Le problème, c'est qu'il a pas encore tous ses joueurs. Hein. Il y a pas mal de mondialistes dans le club du Paris Saint-Germain. Il a été très évasif sur les éventuels retours de Neymar et de Cavani. Il a pas encore de date définitive. Ça doit être compliqué, ça, quand même, pour un coach à 15 jours de la reprise de la Ligue 1.
Ouais, mais il le sait, avec une signature en année de Coupe du Monde ou une phase finale d'une grosse compétition. Et puis, même si c'était pas une compétition en Europe, si ça avait été une Copa América qui aurait mobilisé beaucoup de joueurs argentins de l'effectif parisien, voilà. Quand t'es une grosse écurie européenne, en tout cas un effectif international de super qualité, donc avec des internationaux à tous les postes, même sur le banc. Tu sais que les gars, quand tu commences une saison, même une année impaire, avec les Copa América, je crois qu'elles se jouent les années impaires, non, je dirais une connerie. Mais tu sais que tu vas pas les récupérer tout de suite.
Non, mais en plus, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça te fait un peu un revue d'effectifs. Tu vois un peu les jeunes, tu vois un peu ce que t'as dans la boutique.
Et oui, complètement.
Et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une bonne période pour les jeunes. Les jeunes peuvent se mettre un peu en avant et se faire connaître du nouveau coach.
22h54, on joue dans la
fleur. Mais oui, on joue.
Et on accueille au 32-16. Enzo et Mohamed, salut les amis.
Salut tout le monde.
Salut François. Alors salut, on va Enzo. Jouer salut, sur les ballons d'or. Enzo, est-ce que tu veux jouer avec François Manardo ou avec Sam Ipoua?
Oh là là, avec François Manardo.
Alors Enzo, Enzo, François et Mohamed. D'accord. Du coup, eh bien,
t'inquiète pas, c'est pour nous ce soir.
Tu joues avec Sam. Alors, les amis, sur les 20 dernières années, combien de gagnants Le ballon d'or, pouvez-vous me citer? Quiz préparé par Cyprien Bacou depuis 8h05 ce matin à la rédaction. Donc je veux un point par bonne réponse et on alterne. Donc Enzo, tu démarres.
Combien tu as dit
Je veux le nombre de joueurs qui ont gagné le ballon d'or.
Ok, depuis 98 jusqu'à maintenant.
Voilà, Enzo, je t'écoute.
Shevchenko.
C'est bon, un point. Mohamed.
Ronaldo.
C'est bon. François,
Messi.
Attendez, chacun son tour, les amis. François,
Messi.
Ok. Sam,
Fabio Cannavaro.
Très bien, ça fait deux partout. Enzo, à ton tour de nouveau. Pardon.
Kaka.
Très bien. 3-2. Mohamed.
Ronaldinho,
c'est bon également. Ça fait trois partout. Monsieur Manardo.
Pavel Nedved.
4-3. Aucune erreur pour l'instant. Je suis impressionné, les garçons. Ouais, Sam.
Michael Owen.
Exactement, ça fait 4 partout. Enzo.
Zidane.
5-4. Très bien, ça va commencer à se compliquer un petit peu quand même. Mohamed.
Rivaldo.
Oh, vous êtes fort, vous êtes fort. Vous les avez tout simplement tous cités, hein, si je dis pas de...
Non, il en manque un, à mon avis.
Ouais, il en manque un, tu as ouais, raison. Ouais. Et c'est à toi d'ailleurs de
parler. C'est à moi, Luis Figo.
Figo 2000, ouais.
Luis Figo. Ouais. 2000, exactement. Ça fait donc 5 partout. On enchaîne avec des petites questions subsidiaires. Depuis 10 ans, quel est le joueur qui a été le plus souvent sur le podium du Ballon d'Or, outre Ronaldo et Messi?
Neymar.
Non, là, tout le monde peut participer, les amis.
Torres. Zidane. Non, pas Torres.
Non.
Iniesta.
Non, mais pas loin.
Xavi.
Je vous ai aidé, c'est pour monsieur Manardo et pour Enzo. Donc ça fait 6-5.
Je suis pas sûr hein, replay, parce que je l'ai dit avant.
Ouais.
C'est limite, hein.
Tu veux
François.
Faire la bio? Moi, écoute.
Dans l'oreille, on me dit que c'est
François.
Ça me
fend le cœur,
Sam.
J'ai compris, c'est celui qui prend le plus fort qui a le point.
Mais c'est comme ça. 6-5 pour l'équipe François et Enzo. En 98, lors du Ballon d'Or de Zidane, qui l'accompagne sur le podium? Donc je veux le deuxième et le troisième, mais ça fait un point par bonne réponse.
Deuxième.
Bergkamp.
Non.
Ronaldo.
Oui. Qui a dit Ronaldo?
Mohamed.
Ça fait donc un point pour Mohamed.
Et le troisième, c'est ça?
Ouais.
Et Beckham, non?
Non.
C'est quoi? C'est la Coupe du Monde cette année par Rivaldo.
Batistuta.
Non. Une équipe qui a été demi-finaliste en 98.
Ah. Avec des champions.
Souker,
c'est pour Sam Ipoua.
C'est pour Sam. Bravo Sam.
En 2006, c'est un défenseur, la personne de Fabio Cannavaro, mais il devance qui?
Buffon.
Wow. Très bien.
Bravo. Buffon. Ouais.
Et troisième aussi.
Ouais. Français.
Henri.
Qui a dit Henri?
Mohamed.
Cyprien, tu tiens le décompte. Hein. Dernière question. Avant Zidane, quel est le dernier Français à avoir intégré le podium du Ballon d'Or?
JPP.
Ah, sur le podium?
Oui.
Cantona.
Exactement.
C'est pour nous.
Cantona.
Ouais. Mais ça suffit pas. C'est Mohamed qui remporte le...
Non, Mohamed, on est là.
Mohamed, tu remportes deux places. pour assister donc au match amical entre Chelsea et l'Inter Milan. Ce sera demain à l'Allianz Riviera.
Mohamed, c'est quoi le prix?
Mais de combien?
Bravo, Mohamed, c'est quoi le prix? Bravo, Mohamed.
Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Demain, vous retrouverez l'inénarrable Jean-Christophe. Et vous lui apporterez bien
de combien on a
Samuel, Samuel, il m'entend, Samuel?
Ouais, je t'entends, je t'entends.
Samuel, t'as un bon. Moi, j'entends parler beaucoup de toi dans tout à côté. T'es quelqu'un très très bien. Tu fais des très très bonnes choses.
Merci, Poto. Je te remercie.
Très bien, Mohamed. Merci beaucoup. Merci également à Enzo, François. Merci beaucoup. Et demain, l'after revient avec Jean-Christophe Drouet. Salut les amis, ciao.
RMC, le super football show, l'after foot.